Molière, Le Misanthrope, acte 1, scène 1, Alceste à Philinte.
Non, elle est générale. Je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants, et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le français, l'érat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements odieux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois s'est poussé dans le monde. Et que par eux, son sort, de splendeur revêtu, fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux qu'en tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommez-le fourbe, infâme et scélérat maudit. Tout le monde en convient et nul n'y contredit. Cependant sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est par la brigue un rang à disputer, sur le plus honnête homme on le voit l'emporter.
Tête bleue ! Ce me semble de mortelles blessures de voir qu'avec le vice on garde des mesures. Et parfois il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains.
Acte 4, scène 3. Alceste à Célimène.
Ciel, rien de plus cruel peut-il être inventé. Et jamais cœur fut-il de la sorte traité. Quoi, d'un juste courroux je suis ému contre elle. C'est moi qui me viens plaindre. Et c'est moi qu'on querelle. On pousse ma douleur et mes soupçons à bout. On me laisse tout croire. On fait gloire de tout. Et cependant, mon cœur est encore assez lâche pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache. Et pour ne pas s'armer d'un généreux mépris contre l'ingrat objet dont il est trop épris.
Ah, que vous savez bien ici, contre moi-même, perfide, vous servir de ma faiblesse extrême et ménager pour vous l'excès prodigieux de ce fatal amour né de vos traîtres yeux. Défendez-vous au moins d'un crime qui m'accable et cessez d'affecter d'être envers moi coupable. Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent. À vous prêter les mains, ma tendresse consent. Efforcez-vous ici de paraître fidèle. Et je m'efforcerai, moi, de vous croire tel.
Racine, Bérénice. Les adieux de Bérénice à Titus, puis à Antiochus.
Arrêtez, arrêtez. Prince trop généreux, en quelle extrémité me jetez-vous tous deux? Soit que je vous regarde ou que je l'envisage, partout du désespoir je rencontre l'image. Je ne vois que des pleurs et je n'entends parler que de troubles, d'horreur, de sang prêt à couler. Mon cœur vous est connu, Seigneur, et je puis dire qu'on ne l'a jamais vu soupirer pour l'Empire. La grandeur des Romains, la pourpre des Césars n'ont point, vous le savez, attiré mes regards. J'aimais, Seigneur, j'aimais. Je voulais être aimé. Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmé. J'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur et vous m'aimez toujours. Votre cœur s'est troublé, j'ai vu couler vos larmes. Bérénice, ce Seigneur ne vaut point tant d'alarmes, ni que par votre amour l'univers malheureux, dans le temps que Titus attire tous ses vœux et que de vos vertus il goûte les prémices, se voit en un moment lever ses délices. Je crois, depuis 5 ans, jusqu'à ce dernier jour, vous avoir assuré d'un véritable amour. Ce n'est pas tout. Je veux, en ce moment funeste, par un dernier effort couronner tout le reste. Je vivrai. Je suivrai vos ordres absolus. Adieu, Seigneur. Régnez. Je ne vous verrai plus. Prince, après cet adieu, vous jugez bien vous-même que je ne consens pas de quitter ce que j'aime pour aller loin de Rome écouter d'autres vœux. Vivez et faites-vous un effort généreux. Sur Titus et sur moi, réglez votre conduite. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte. Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers. Adieu. Servons tout droit d'exemple à l'univers de l'amour la plus tendre et la plus malheureuse dont il puisse garder l'histoire douloureuse. Tout est prêt. On m'attend. Ne suivez point mes pas. Pour la dernière fois, adieu, Seigneur.
André Chénier, la jeune Tarentine.
Pleurez, douze Alcyon, ô vous, oiseaux sacrés, oiseaux chers à Tétis, douze Alcyon, pleurez. Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine. Un vaisseau la portait au bord de Camarine. Là, l'hymen, les chansons, les flûtes, lentement devaient la reconduire au seuil de son amant. Une clé vigilante a pour cette journée, sous le cèdre, enfermé sa robe d'hyménée, et l'or dont au festin ses bras seraient parés, et pour ses blonds cheveux les parfums préparés. Mais seul sur la proue, invoquant les étoiles, le vent impétueux qui soufflait dans les voiles l'enveloppe. Étonnée et loin des matelots, elle tombe, elle crie, elle est au sein des flots. Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine. Son beau corps a roulé sous la vague marine. Tétis, les yeux en pleurs, dans le creux d'un rocher, au monstre dévorant, eut soin de la cacher. Par ses ordres, bientôt les belles Néréides l'élèvent au-dessus des demeures humides, le portent au rivage, et dans ce monument, l'ont au cap du Zéphyr déposé mollement. Puis, de loin, à grands cris appelant leurs compagnes, et les nymphes des bois, des sources, des montagnes, toutes, frappant leurs seins et traînant un long deuil, répétèrent, hélas, autour de son cercueil. Hélas, chez ton amant, tu n'es point ramené, tu n'as point revêtu ta robe d'hyménée, l'or autour de tes bras n'a point serré de nœud, les doux parfums n'ont point coulé sur tes cheveux.
Lamartine, le lac. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. Ô lac,
L'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde. Je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes. Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés. Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ses mots. Ô temps, suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implore, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leur jour les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Tant jaloux. Se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Et quoi, n'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi passer pour jamais? Quoi tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Éternité, néant, passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez! Nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez? Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, dans l'astre au fond d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout dise. Ils ont été.
Gérard de Nerval, El Desdichado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salit. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron,
modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée.
Vigny, la mort du loup.
Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée. Et les bois étaient noirs jusque à l'horizon. Nous marchions, sans parler, dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu. Ni le bois, ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Seulement, la girouette en deuil criait au firmament. Car le vent élevé bien au-dessus des terres n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires et les chênes d'en bas contre les rocs penchés sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc.
Lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête a regardé le sable en s'y couchant.
Bientôt,
lui que jamais ici l'on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups cerviers et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos couteaux.
Et cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,
nous allons pas à pas, en écartant les branches. Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'il voyait, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux quand le maître revient des lévriers joyeux. Leur forme était semblable, et semblable la danse.
Mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ces murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les Romains et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.
Le loup vient et s'assied. Les deux jambes dressées, par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles jusqu'au dernier moment où le chien, étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouaient au gazon tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore. Ensuite, il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche. Et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, mais sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser. Il n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils, qui tous trois avaient voulu l'attendre. Et, comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver, afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nombre d'hommes, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand. Tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur. Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier, est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après,